Formation biblique de disciples, cours numéro 10, la chair et l'esprit. Section 3, marcher par l'esprit, croissance de l'homme spirituel. Première partie, marcher par l'esprit. Paul écrit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair est l'expression que la Bible utilise pour décrire tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et à sa volonté. Notre ego est comme le centre de commandement qui émet d'innombrables signaux et nous pousse à agir. Les signaux et les actes qui émanent de ce centre de commandement visent tous à nous faire prendre soin de nous-mêmes, à épargner notre ego, à recevoir de l'honneur et des faveurs, et à nous mettre en valeur au détriment des autres. C'est le désir de la chair qui a des exigences et des attentes à n'en plus finir. Nous pouvons généralement contrôler notre chair jusqu'à un certain point, en tout cas lorsque les impulsions de la chair ne profitent pas à notre ego. La plupart du temps, cependant, notre nature humaine est soumise aux forces de la chair. Donc, quand les caractéristiques négatives dont nous avons hérité depuis des générations se manifestent, les gens disent souvent « nous ne sommes que des hommes ». Cependant, Paul a écrit qu'en marchant selon l'esprit, tu n'as plus besoin d'accomplir ses désirs. Tu penses et tu agis autrement que les autres personnes dans les diverses situations de la vie. Petit 1, marcher selon l'esprit. Quand tu marches, tu avances. Tu vas du point A au point B. Pour pouvoir marcher dans l'esprit, il faut d'abord recevoir l'esprit. L'esprit dont nous parlons ici est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une force réelle, aussi réelle qu'une grue qui enlève un conteneur d'un bateau et le dépose sur un quai. Si tu reçois ce pouvoir dans ta vie, un nouveau jour commence. C'est le commencement d'un chapitre extrêmement intéressant de ta vie. La plupart des gens qui reçoivent cet esprit préféreraient s'abandonner à leurs sentiments et se faire plaisir comme un enfant qui a uniquement envie de jouer. Mais le Saint-Esprit n'est pas un jouet. C'est une aide pour ceux qui veulent des résultats dans leur vie chrétienne. Le Saint-Esprit a toutes les bonnes qualités possibles et imaginables. Il nous donne le pouvoir de porter les plus lourdes charges et de supporter les adversités. C'est aussi un guide. Il reconnaît le chemin que Jésus a ouvert quand il était sur la terre, la route qui te permet d'échapper à tout ce qui est néfaste et négatif et te met en contact avec tout ce qui bénit et ce qui apporte quelque chose de positif à ton prochain et te remplit de joie et de paix. Tu deviens parfaitement heureux et ceux qui sont autour de toi le remarquent. Petit 2, l'Esprit veut tous nous rappeler et nous donner de la force. Nous rencontrons tous des adversités. Qui n'a pas senti que ce qui m'arrive maintenant est tragique et cela n'a pas de sens? Tu as perdu ton téléphone mobile ou ton argent ou peut-être un bon ami. Peut-être que quelqu'un au travail a parlé derrière ton dos. Tu as postulé pour un bon emploi sans l'obtenir. Il y a beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qui se passe quand tu marches selon l'Esprit? Jésus dit que l'Esprit nous rappelle tout ce qu'il nous a dit. Jean 14, verset 26. Lis par exemple dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. L'inquiétude est autre chose que d'organiser le programme de la journée. L'inquiétude nous oppresse, elle nous vole notre énergie et notre joie. L'Esprit nous rappelle aussi ce que Pierre a écrit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Quand tu marches selon l'Esprit, ces paroles vont directement dans ton cœur et ton esprit et deviennent des piliers solides qui te font dire non à toutes les pensées qui surgissent et qui veulent provoquer de l'anxiété. L'Esprit te donne la force pour cela, tout comme une grue qui enlève des tonnes de marchandises d'un bateau et les dépose sur le quai. Petit 3, une marche dans l'obéissance et la liberté de l'esprit. Marcher selon l'esprit signifie être obéissant à l'esprit, aux lois et commandements que l'esprit te rappelle quand viennent les tentations. Le fait d'être tenté n'est pas la même chose que de pécher. Mais quand tu es dans la tentation, il faut que tu prennes une décision. Quand quelqu'un te dit quelque chose de mal ou d'impoli, tout le monde sait quelle sorte de tentation se présente. Tu as envie de répondre ou de te venger d'une manière ou d'une autre. Si tu le fais, tu enfreins les commandements de Dieu. Tu commets un péché. Mais que dit le Saint-Esprit? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si tu marches selon cet esprit, tu as la victoire dans la tentation. Tu résous la situation d'une manière positive et cela te donne de la joie au lieu de déclencher un effet domino destructeur. Quand on marche selon l'esprit, toi qui étais agité, anxieux et souvent malheureux, tu reçois alors une vision plus saine de la vie. Tu deviens stable et tu deviens capable de créer de la paix autour de toi. Tu deviens heureux et cela devient un élément naturel de ta vie. Tu n'es plus jaloux des autres. L'amour libère tes pensées des exigences sans fin de ton ego et au lieu de cela, tu penses aux autres et à ce qui pourrait être bon pour eux. La fidélité devient une partie de ta personnalité. Tu deviens une personne fiable dans tout ce que tu dis et fais. Tu deviens une nouvelle personne. Il n'est plus juste de dire nous ne sommes que des hommes. Quelque chose de complètement nouveau est né dans ta vie et tu penses et tu agis autrement qu'avant. Cela fait de toi un vainqueur. Toutes ces qualités se développent en marchant selon l'esprit et tu te diriges vers le côté ensoleillé de la vie. C'est la vie que Jésus a vécue sur terre et à laquelle tu peux avoir part en étant un de ses disciples. Marcher selon l'esprit demande de l'exercice. Il peut y avoir parfois des petits accidents de parcours, en particulier au commencement de ta vie chrétienne, mais il ne faut pas se décourager ou penser que ça ne sert à rien. Dans une traduction, l'esprit est aussi appelé le consolateur, celui qui donne du courage. Il nous réconforte et nous donne plus d'assurance et renouvelle notre courage quand nous en avons besoin. L'esprit nous accompagne dans notre marche et nous donne la nourriture nécessaire quand nous en avons besoin, quand nous aimons la vérité. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Marche selon cet esprit et tu auras une vie réussie. Ce n'est pas de la philosophie ni de la théorie. Il y a beaucoup de gens qui vivent à notre époque et qui ont fait l'expérience de ces choses, et leur entourage peut confirmer que c'est vrai. Ce n'est pas en étant un soi-disant croyant, en étant membre d'une église ou en adhérant à une religion ou un groupe religieux que tu pourras résoudre tes problèmes. C'est le fait de marcher selon l'esprit qui résout tes conflits intérieurs, ainsi que les conflits que tu peux avoir avec d'autres. Il n'y a pas de meilleure vie ni de meilleure sollicitation. Lire Romains 8, versets 3, 4, 5, 9 et 13, et Galates 5, versets 16 à 25. Marcher selon l'esprit ou vivre selon l'esprit. Vivre selon signifie la source. Marcher selon veut dire les eaux qui en découlent. Marcher selon l'esprit est l'opposé à marcher selon la chair ou vivre selon la chair. Quelle est la signification de l'expression? Selon, c'est être en accord avec. Ici, le Saint-Esprit est considéré comme la personne de référence qui gouverne et conduit le comportement, on pourrait dire selon l'orientation que l'Esprit communique. D'après plusieurs traductions, nous avons suivre les suggestions de l'Esprit, suivre ses injonctions, des ordres, suivre ses indications, sous la direction de l'Esprit et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit oriente, exhorte, suggère, indique, impulse, étant entendu que l'impulsion, la direction, l'injonction, la suggestion, l'indication du Saint-Esprit sont celles de Dieu lui-même et donc pas à inventer ou à confondre avec nos pensées. Mais c'est bien la volonté de Dieu telle que révélée dans la parole. Par, lire Galates 5, verset 25. La puissance qui agit, c'est possible par son action. Donc nous avons avec les deux expressions la conformité à la volonté de Dieu et l'action efficace. Marcher selon l'esprit. Cela concerne nos pensées, nos habitudes, notre style de vie, tout ce qui caractérise une personne. Ainsi, nous pouvons dire que marcher selon l'esprit, c'est rechercher l'accord, l'harmonie avec ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu et le laisser agir en nous pour parvenir au résultat. Marcher selon l'Esprit est non seulement opposé à la marche selon la chair, mais aussi à une marche selon l'homme ou toute humaine, selon la colombe. 1 Corinthiens 3, verset 3. C'est donc la définition de la vie chrétienne elle-même. C'est l'expérience et l'expression du salut, c'est-à-dire du fait d'être sauvé. L'arrière-plan général. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Son effusion à la Pentecôte a inauguré ce temps. Voyons l'œuvre du Saint-Esprit en quatre traits. Premier trait, la relation du Saint-Esprit avec le Christ glorifié. Il est lié à l'homme parfait qui est dans les cieux, Jésus. C'est Jésus qui est sa vision, son but, sa passion. Il est comme consacré à Jésus pour établir toutes choses en relation avec lui. Jean 15, verset 26, Jean 16, versets 13 à 14. Deuxièmement, un changement de l'être humain. Intimement lié à la première œuvre, voici la seconde. Le Saint-Esprit veut opérer une transformation totale dans l'homme, initialement par la naissance d'en haut, puis progressivement par la sanctification de l'Esprit. Troisièmement, un peuple appelé à être en union de vie avec Christ. Matthieu 16, verset 18. Peu de temps après cette parole, Jésus est retourné dans la gloire. C'est le Saint-Esprit qui agit sur terre en poursuivant l'œuvre initiée par Jésus. Ainsi, le Saint-Esprit amène à l'existence l'Église, corps de Christ, travaille à rendre ce peuple conforme à son chef avant de lui amener. Il est le divin Éliézer, serviteur d'Abraham, mandaté pour chercher et ramener une épouse pour son fils. Quatrièmement, la mission de l'Église dans le monde. Le Saint-Esprit envoie, fortifie l'Église, car c'est elle qui est l'instrument oint pour la mission de présenter, faire connaître Jésus. Voir 2 Corinthiens 3, verset 3. Cette vocation est en péril. On observe l'intrusion d'un pouvoir financier et ses dérives, des puissances d'en bas, art, social, psychologie, esprit du monde, etc. Et tout ce qui est de l'homme est opposé à l'esprit de Dieu. Galates 5, verset 25. La marche selon l'esprit est donc la manifestation de la vie par l'esprit. Cette vie doit d'abord se recevoir et s'accueillir. Jean 10, verset 10. Cette vie, c'est la vie éternelle, appelée aussi la vie spirituelle. 1 Jean 5, verset 11. Le point de départ, la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 à 7. Avec notre naissance naturelle, nous sommes morts car étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. C'est là l'une des définitions les plus justes de la perdition. On peut être brave, apprendre les préceptes moraux, mais sans la vie de Dieu, on est mort. Il faut donc naître de nouveau, c'est-à-dire être régénéré, être engendré. Comment naître de nouveau? Jean 16, versets 8 à 11. La conviction du Saint-Esprit. De péché, c'est à la base le péché d'Éden ou l'indépendance par rapport à Dieu. Ils ne croient pas en moi, puis les fautes morales. De justice, celle du Seigneur prouvée par sa résurrection et son ascension. La conviction du jugement, la croix comme défaite du diable. Acte 11, verset 18. Ensuite, la repentance, c'est-à-dire le changement de pensée, de mentalité. Voyons l'exemple de Corneille dans Acte 10, verset 12. Mais il était encore étranger à la vie de Dieu. Curieusement, la repentance n'est pas nommée dans le récit d'Actes 10, mais elle y était par la soif de leur cœur qui les ont amenés à boire la parole au fur et à mesure de son annonce. Jean 3, verset 8. Après, le vent, c'est l'esprit. Comparé Ézéchiel 37, verset 9. L'esprit, c'est donc bien le fait d'avoir la vie. Et pour que l'expérience selon ou par l'Esprit soit complète, lisons Jean 1, verset 33, Acte 1, verset 8, Acte 2, verset 33. Non pour être sauvé, mais pour servir Jésus et marcher pleinement selon l'Esprit. Tout est dès l'origine de et par le Saint-Esprit. Notre part, c'est de ne pas lui résister quand il convainc. Ceci est un point de départ incontournable pour la suite, marcher selon l'Esprit. Deuxième partie. Croissance de l'homme spirituel, parole et esprit. La croissance de l'homme spirituel en Christ va se produire par la consolidation des fondations de notre être nouveau opérée par la parole de Dieu, mais aussi elle va se développer par l'action permanente du Saint-Esprit dans notre nouvelle vie. Avant de développer ces deux concepts, rappelons-nous bien l'importance d'entrer dans la guérison intérieure et dans la délivrance des puissances des ténèbres. Ceci fait aussi partie du processus de restauration pour grandir en maturité dans la vie chrétienne. Petit 1, la guérison intérieure. But. Cette leçon donne aux intercesseurs la connaissance sur les blessures intérieures et sur les voies d'en sortir pour qu'ils expérimentent eux-mêmes la délivrance intérieure et aussi pour qu'ils arrivent à aider les familles malades. Les blessures intérieures, les manifestations des blessures intérieures, la restauration intérieure par la guérison intérieure, le traitement spirituel des blessures intérieures. Petit a, les blessures intérieures. Les blessures intérieures, appelées dans la Bible les plaies du cœur, sont toutes les souffrances qu'une personne a senties ou sent encore dans son cœur après un événement malheureux et qui a des conséquences inconscientes ou conscientes dans sa relation avec les autres, dans son comportement, dans son corps ou dans ses idées. Il y a des familles dont les membres ont connu des blessures intérieures. La famille de David a connu des blessures intérieures par les actes d'adultère et d'inceste qui ont eu pour conséquence la fratricide et la dispute, les enfants irrités et rebelles. La Bible dit: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3, verset 21. Le viol dans la maison cause une grande blessure dans la vie de la victime. 2 Samuel 13, verset 12. C'est une infamie, Deutéronome 22, versets 23 à 29. L'enfant qui a été maltraité par ses parents, dans la grossesse, dans son enfance ou sa vie de jeunesse, l'homme ou la femme blessé par l'infidélité de l'autre, voire 2 Samuel 12, verset 11. Petit b, les manifestations des blessures intérieures. Une famille dont les membres ont connu des blessures intérieures se remarque par plusieurs manifestations. Étant tridimensionnel, âme, esprit et corps, l'homme peut être malade dans une des parties. Et souvent, les trois parties s'influencent les unes les autres, car elles sont étroitement liées, que seule la parole de Dieu peut les séparer. Hébreux 4, verset 12. Elles peuvent se manifester de plusieurs manières, selon la personne et selon la profondeur de la blessure. Les phobies, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui ont une vie caractérisée par une sorte de phobie, une obsession sur la peur ou la crainte. Ils ont une peur exagérée d'un animal, d'un objet, d'un sexe, d'une situation malheureuse, d'une idée, du mariage, de l'avion, du camion, etc. Un tel comportement est probablement des conséquences des blessures intérieures. Ils ont effectivement le cœur saignant qui est visible par ce comportement. Inconsciemment, il y a un mauvais souvenir qui déchire encore leur cœur. Les phobies ont des mauvaises conséquences dans la vie de ces victimes. De lamentables vies sexuelles, l'impuissance partielle ou totale, la frigidité, l'homosexualité, les échecs incessants, etc. Les complexes sont aussi une manifestation des blessures intérieures. Un complexe d'infériorité est anormal quand il provoque la souffrance, la timidité, l'angoisse, la peur, l'hostilité, l'agressivité, le besoin tenaillant de dépasser les autres, etc. Il est une attitude mentale parfois consciente, très souvent subconsciente, mais qui commande toutes les actions de celui qui en est atteint. Un complexe de supériorité, c'est un attachement anormal à un des parents de sexe opposé que lui pour une personne âgée. Les déviations sexuelles. Les blessures intérieures dues aux troubles psychologiques conduisent aux déviations sexuelles telles que la masturbation. Elle est produite par une solitude psychique, c'est-à-dire un résultat d'un complexe ou d'une solitude physique. Voyage prolongé, emprisonnement, vie de célibat. L'homosexualité est une relation sexuelle entre les gens de même sexe. Elle est souvent provoquée par la haine contre son propre sexe. Le masochisme est un phénomène par lequel on obtient la satisfaction sexuelle par la souffrance, les coups, la torture, le fouet, etc., ou bien par des tortures mentales comme les humiliations, les mépris, les injures, l'esclavage, etc. Le fétichisme est une pratique dans la sexualité utilisée par de grands timides, des anxieux, des refoulés, des psychasthéniques. C'est aussi une réaction sexuelle due aux imaginations d'un homme devant un objet, une photo ou une partie d'un être de sexe opposé. La bestialité, c'est l'accomplissement de l'acte sexuel avec des animaux. La délinquance juvénile. Les obsessions. Beaucoup d'hommes ont une blessure intérieure qui se manifeste par l'obsession, qui est un sentiment ou une idée excessivement pénible, une habitude exagérée. L'obsession se présente à l'esprit de façon répétée et souvent atroce. L'idée tenace et douloureuse, produisant de fortes angoisses avec toutes leurs conséquences physiologiques et psychologiques. On a les obsessions religieuses, familiales, sexuelles, de maladie, de perfection, de justice, d'hygiène, de devoir, de responsabilité. Les maladies psychosomatiques. Les blessures intérieures pour d'autres personnes se manifestent par les maladies corporelles appelées les maladies psychosomatiques. Ces maladies sont dues par les troubles psychiques et spirituels après un événement malheureux. Petit c, la restauration intérieure par la guérison. Elle se distingue de la guérison du corps, quoique cette dernière dépende grandement d'elle. Elle consiste à guérir toutes les blessures que notre moi profond ait subies au niveau de l'âme et de l'esprit, et du conscient et du subconscient, de la période prénatale à ce jour. Elle est la restauration de la santé de l'homme intérieur et a des conséquences au corps. Dieu veut que toutes les parties de l'homme soient en bonne santé, y compris l'intérieur. La guérison intérieure est la restauration de la paix, de la joie, de l'amour et de l'espérance intérieure qui résulte de l'intervention de Dieu sur les blessures intérieures, sur les pensées endommagées et sur la conscience et subconscience chargées. Voir Jean 14, verset 27, Philippiens 4, verset 6. La guérison intérieure a pour fondement la croix de Jésus-Christ, car Jésus a subi des blessures à l'intérieur de son âme comme de son corps. Ésaïe 53. Cette guérison concerne l'être intérieur composé du cœur de l'homme, de son âme, psyché et de son esprit. Elle se distingue de la guérison du corps. La guérison intérieure consiste à la guérison de toutes les blessures que notre moi profond ait subi conscient. Subconscient de la période prénatale à ce jour. Elle est la restauration de la santé de l'homme, l'âme et de corps pour un résultat corporel. La Bible affirme que l'homme est tridimensionnel, esprit, âme et corps. Il y a l'homme intérieur et extérieur. Dieu veut que toutes les parties physiques et spirituelles soient en bonne santé. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 2 Jean 3, verset 2. L'homme intérieur peut ne pas être en bonne santé. Cette réalité est réelle lorsqu'il est écrit: C'est Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies intérieures. Psaume 147, verset 3. Il guérit l'âme ayant péché, voire Psaume 41, verset 5. Il guérit de l'infidélité, voire Osée 14, verset 4. La guérison intérieure est la restauration de la paix et de la joie intérieure qui résulte de l'intervention divine sur les pensées, la conscience, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de l'homme. Petit d, le traitement spirituel des blessures intérieures. Les hommes qui ont des blessures intérieures peuvent recevoir la guérison intérieure de leur cœur et de ses conséquences. La Bible dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'ils pansent leurs blessures. Voir Psaume 147, verset 3. La puissance de Dieu est la base de la guérison intérieure. Cette guérison exige que l'homme qui souffre connaisse la réalité de sa blessure intérieure et cherche l'intervention guérissante de Dieu. La guérison peut exiger plusieurs éléments, entre autres la parole de Dieu, le pardon de tous les torts dont on a été victime et de toutes les personnes qui nous ont fait du mal, la prière accompagnée de l'imposition des mains et proclamant la parole de Dieu. La parole de Dieu étant l'épée de l'esprit, opère la chirurgie spirituelle, voire Hébreux 4, verset 12. la méditation de la parole de Dieu pour sa guérison. Étant la nourriture spirituelle, la parole de Dieu redonne à l'homme intérieur la vigueur indispensable pour la guérison. Voir Matthieu 4, verset 4. L'homme de Dieu s'entretint pendant une période selon l'amélioration de cas avec le patient dans le dialogue pastoral en utilisant la parole de Dieu. La prière de l'homme de Dieu conduit Dieu à agir dans le cœur de l'homme par la guérison. Dieu qui est omniscient connaît la profondeur du dégât causé dans le cœur par un événement malheureux. Dieu sonde le cœur et il peut aussi le guérir. Petit 2, la délivrance des démons. Introduction. Je vais vous parler de la délivrance, c'est-à-dire du combat que nous avons à mener pour être délivrés des démons et pour délivrer les captifs. J'aborderai également le sujet du combat spirituel, combat pour résister aux attaques démoniaques. Il faut délivrer les captifs des démons qui les lient. La délivrance est l'engagement dans un combat pour résister aux démons que Satan envoie contre nous et contre tous ceux qui sont captifs de ces démons, et pour que ces démons soient ôtés de la vie des gens qu'ils lient. Si je veux parler de la délivrance, c'est surtout pour nous encourager à mener ce combat dans la foi, parce que constamment autour de nous, nous avons des gens, chrétiens ou païens, qui sont liés par des démons. Et le Seigneur doit nous donner le discernement pour comprendre quand et comment nous devons attaquer ces démons pour les chasser au nom du Seigneur Jésus. Il faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons toujours le modèle du Seigneur Jésus. Jésus n'allait pas dans les rues pour chasser les démons. Jésus allait dans les rues pour annoncer la parole, pour prêcher la repentance, et l'onction qui était sur lui faisait s'agiter les démons. Il ne pouvait pas supporter cela. Et lorsque les démons étaient agités et se manifestaient, Jésus les chassait à ce moment-là. Faisons comme lui. C'est un domaine qui est vraiment très particulier, mais aussi un domaine dangereux. Quand nous voyons la puissance de la parole et du nom de Jésus, et nous savons par la parole que les démons tremblent au nom de Jésus, quand nous commençons par la foi à chasser les démons qui se manifestent et que le Seigneur nous montre, le risque c'est d'être entraîné trop loin. Il y a un réel danger pour les enfants du Seigneur d'aller trop loin dans ce combat, c'est-à-dire de tout miser sur les démons, de voir des démons partout et de passer tout notre temps à chasser les démons. Il y a une place pour chasser les démons dans le ministère des enfants de Dieu, mais il n'y a pas que cela. Il ne faut pas être déséquilibré, il ne faut pas voir des démons partout. Certaines personnes chassent par exemple des démons d'obésité alors qu'il faudrait simplement s'arrêter de manger. Donc il faut avoir vraiment le discernement. Il peut y avoir des démons d'obésité, mais il ne faut pas se lancer dans un combat qui ne soit pas conduit dans le discernement du Seigneur. Par contre, il ne faut pas non plus éviter le combat quand le Seigneur nous montre que nous devons combattre pour chasser des démons. Il faut alors s'engager dans ce combat. Petit a, Jésus et le ministère de la délivrance. Il y avait toute une partie du ministère de Jésus qui consistait à chasser les démons. Quand il envoie les disciples et qu'il leur dit « Voilà les signes, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », le premier des miracles qu'il indique, c'est « En mon nom, vous chasserez les démons ». Quand il envoie les 12 dans Matthieu 10, il envoie les 12 pour prêcher la parole de repentance. Il leur dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons en mon nom ». Donc nous allons forcément être obligés, dans notre ministère de serviteurs et de servantes de Dieu, de rencontrer des démons parce qu'ils sont autour de nous, ils sont partout. Satan contrôle toute notre planète. Il contrôle tout ce monde extérieur. Il contrôle les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et il arrive à lier beaucoup de chrétiens. Il faut que nous soyons vraiment engagés dans ce combat dans la puissance du Saint-Esprit. Lançons-nous dans ce combat que le Seigneur nous demande de mener, selon les conditions précises que le Seigneur nous montrera. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Si nous ne chassons jamais les démons, et si une église n'est jamais engagée dans la délivrance des captifs, il y a un manque sérieux. Ou bien l'onction de Dieu ne demeure pas sur cette personne ou sur cette église, parce que quand l'onction demeure, forcément les démons finissent par se manifester, ils ne peuvent pas supporter l'onction. Et c'est grave. Ou bien on désobéit à Dieu et on ne chasse pas les démons et c'est aussi grave. Petit b, le chrétien et l'exercice de l'autorité spirituelle. Exercer son autorité spirituelle. Il y a des moments où il ne faut pas prier le Seigneur en lui demandant de chasser des démons, c'est-à-dire en lui demandant que lui chasse les démons. Jésus nous dit, c'est vous qui devez chasser les démons. Il y a des moments où Jésus décidera de ne rien faire parce que nous n'aurons pas fait ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire chasser les démons. Nous serons en présence de démoniaques, de démons qui vont se manifester. Et si à ce moment-là, nous tournons les yeux vers le Seigneur en disant, Seigneur, je te supplie de chasser les démons de cette pauvre personne, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens. Jésus ne fera rien parce qu'il nous dit dans sa parole, prends l'autorité que je t'ai donnée et en mon nom, chasse-les devant toi, ceux qui sont en train de se manifester ou ceux que tu discernes par mon esprit, chasse-les. Ne recule pas devant le combat que tu as à mener, que ces démons t'attaquent ou que ces démons attaquent des personnes qui t'entourent. Qui sont les démons? Les démons sont des esprits invisibles, qui n'ont pas de corps charnel, mais qui peuvent se manifester de manière visible, en prenant une forme humaine quelquefois. Mais ce sont des esprits qui sont au service de Satan. Je ne vais pas entrer dans la discussion de savoir d'où viennent les démons, ce n'est pas intéressant. Certains disent que ce sont les anges déchus qui sont devenus des démons. Certains disent que ce sont les esprits des hommes qui ont servi Satan, les esprits humains de sorciers qui continuent à le servir avant d'être jetés en enfer au jour du jugement. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démons sont des esprits qui sont au service de Satan, donc qui sont tous méchants, mauvais et impurs. Ils ne cherchent qu'à détruire, ils ne cherchent qu'à tuer, comme leur maître, à faire du mal, à souiller, à faire tout le mal qu'ils peuvent, à s'opposer à la parole du Seigneur et à l'œuvre de Christ. Ils forment des armées innombrables, mais il faut savoir que les armées du Seigneur sont beaucoup plus nombreuses. De toute façon, un seul ange de Dieu et un seul enfant du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, est capable de résister à Satan lui-même, donc à plus forte raison à ses démons. Il ne faut pas avoir peur de Satan et de ses démons. Il faut savoir que ce sont des ennemis qui sont définitivement vaincus, mais qui sont encore puissants pour faire du mal. Ils ont été vaincus par Jésus à la croix, mais ils sont encore puissants parce qu'ils ne sont pas encore jetés dans le lac de feu, ils sont encore laissés libres sur la terre. Et il faut absolument comprendre que nous devons nous engager dans ce combat en sachant que Jésus a déjà gagné le combat d'avance. Ce sont des esprits au service de Satan, et comme Satan est encore le prince de ce monde qui nous entoure, ces esprits sont dans le monde entier pour faire l'œuvre de leur maître Satan. Jésus a dit de Satan qu'il n'est venu que pour égorger, tuer, détruire. Les démons font exactement le même travail. Ils sont sur l'ordre de Satan, engagés dans un travail qui consiste à mener les hommes en enfer. C'est cela leur but. S'ils ne peuvent pas les amener en enfer parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, les démons vont tout faire pour les empêcher de travailler pour le Seigneur. Le travail des démons va être de donner des maladies aux chrétiens, des accidents, des choses qui vont empêcher les chrétiens de travailler pour le Seigneur afin de les rendre inoffensifs ou les éliminer complètement avant le temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont actuellement liés par des maladies incurables, des infirmités qui sont directement causées par des démons qui ont rendu ces chrétiens incapables de faire l'œuvre du Seigneur. Et Jésus veut libérer ses enfants pour qu'ils puissent faire une œuvre puissante en son nom. Quand on a parlé de guérison des malades, c'est un des aspects du ministère de Jésus. Il y a aussi l'aspect très important de la délivrance de ceux qui sont liés ou qui sont possédés par des démons. Maintenant, en ce qui concerne la croissance de l'homme spirituel dans la vie chrétienne, regardons de plus près les deux principes de développement de l'homme nouveau, la parole et l'esprit. Petit 3, nourriture spirituelle par la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la Bible est une concentration sur la compréhension de la parole de Dieu. Elle est une réflexion active. En pénétrant dans la connaissance de Dieu dans sa parole, on va réfléchir sur l'auteur de la parole, sur la personne divine, le Fils de Dieu. méditer, c'est ruminer la Bible pour connaître Christ, le Fils de Dieu dans cette relation profonde et intérieure, afin que Dieu nous nourrisse de son pain de vie, la parole de vie. Par la méditation de la parole, repasser et réfléchir la parole dans notre cœur et notre intelligence, Dieu nous nourrit de son pain de vie, de la nature divine du Fils révélée dans les profondeurs de notre homme intérieur. En cela, notre homme spirituel se nourrit, grandit, se consolide, se développe en stature et maturité par la croissance de la connaissance relationnelle du Christ en nous. Comment méditer efficacement la parole de Dieu? Méditer désigne une activité mentale par laquelle on examine mûrement quelque chose. C'est réfléchir longuement sur une pensée, une parole, un écrit, un événement, une situation, etc., de manière à l'approfondir afin de découvrir, comprendre et ainsi connaître. La Bible nous dit à cet effet, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En Jean 8, verset 32. Si nous sommes chrétiens, c'est que Christ a payé le prix afin que nous vivions en lui une vie pleinement satisfaisante. Si aujourd'hui nous subissons nos vies plutôt que d'en jouir, c'est par manque de connaissance, comme il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Faute de connaissance, donc, nous laissons la destruction et la mort s'emparer progressivement de tous les domaines de notre vie, à travers notamment maladie, chômage, dette, pauvreté, apostasie, etc., jusqu'à ce que nous soyons entièrement détruits. Mais la connaissance, au contraire, donne la vie. Cette connaissance est le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Dieu a mis dans sa parole tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Si nous nous contentons de la lire, nous ne découvrirons rien et continuerons de vivre une vie d'échec. Lire la Bible, c'est se contenter du logos, de la lettre qui tue. Mais méditer, c'est rechercher et découvrir le rhéma, la révélation de l'Esprit qui vivifie. Voir 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est pourquoi Dieu donna cet ordre à Josué, en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment donc méditer la Bible? Invoquer Dieu avant d'ouvrir sa Bible. Qui de mieux que l'auteur d'un texte pour aider à mieux comprendre ses écrits? Dieu est l'auteur de la Bible. La deuxième Épître de Paul à Timothée, en 2 Timothée 3,16, nous apprend à cet effet que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est donc la personne la mieux indiquée pour nous révéler ce dont il parle. S'engager donc dans la méditation de la parole sans invoquer Dieu, qui est l'auteur de cette parole, peut très vite s'avérer absurde et vain. On se doit de l'invoquer afin qu'il nous conduise et nous parle au travers de sa parole. Être rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus, notre Maître, parlait de ce monde, il nous a partait de ce monde, il nous a promis le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Il a tenu parole en ce qu'à la Pentecôte, l'Esprit qui avait été promis est effectivement descendu. Comme le Seigneur nous l'avait annoncé, il est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la révélation. C'est donc au travers de son esprit que Dieu se révèle à nous désormais. C'est pourquoi il est compliqué de comprendre quelque chose de la Bible quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Méditer avec humilité. Quand vient l'heure de méditer, il faut ôter son manteau d'orgueilleux qui sait tout, de super spirituel, et se calmer pour recevoir de Dieu. Même s'il s'agit d'un verset que vous avez lu, déjà lu et médité une bonne centaine de fois, le Seigneur peut encore vous dire quelque chose de nouveau en cette occasion. Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux, il ne fait grâce donc ne se révèle qu'aux humbles de cœur. Jacques 4, verset 6, 1 Pierre 5, verset 5. Si donc vous venez dans sa présence avec des préjugés, des idées préconçues, vous ne recevrez rien. Ne pas chercher quelque chose, mais quelqu'un. Lorsque nous nous engageons dans la méditation de la parole, nous ne devons pas chercher quelque chose mais quelqu'un. Dieu. Jean 1, verset 1 nous apprend que la parole est Dieu. Généralement, nous méditons par intérêt selon nos challenges du moment pour découvrir une solution. Sachez que nous méditons d'abord pour découvrir Dieu. Dès que nous sommes dans sa présence, tous nos jougs sont brisés. Lorsqu'on a Dieu, on a tout. Si nous continuons de méditer la parole de Dieu comme un avocat consulte le code civil pour mettre en place une stratégie de défense, notre méditation restera stérile. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, lui, pas ses stratégies, pas ses astuces, ses principes, afin d'obtenir ce que nous voulons, à ceux qui le cherchent donc lui de tout leur cœur. Certains, par exemple, ne sont pas vraiment intéressés par Dieu, mais méditent la Bible pour découvrir les principes bibliques, pour s'enrichir ou pour réussir telle ou telle chose. Sur le coup, ça peut paraître très spirituel, mais sachez que méditer, c'est d'abord chercher Dieu. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Méditer la Bible, c'est tendre l'oreille à l'esprit. Nous méditons souvent la Bible comme nous le ferions avec un ouvrage quelconque dont l'auteur ne vit plus pour nous éclairer sur ses idées. On essaye dès lors de se débrouiller pour comprendre ce qu'il aurait voulu dire, vu qu'il n'y a aucun moyen de lui demander directement. Mais Dieu n'est pas mort, il vit éternellement. On peut donc à tout moment lui demander par le Saint-Esprit ce qu'il veut dire dans tel ou tel passage biblique. À cette étape, la méditation tend vers une forme de prière où l'on converse avec Dieu par le Saint-Esprit. N'hésitez donc pas à vous arrêter et à demander au Saint-Esprit la révélation qui se cache derrière telle ou telle affirmation. Allez au rythme de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout comprendre en même temps. Il y a des versets que l'on médite et qu'on ne peut comprendre tout de suite malgré toute notre bonne foi. C'est une question de niveau ou de maturité spirituelle. Après survient un fait par lequel le Saint-Esprit nous rappelle le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre et nous en donne la révélation. Allons au rythme de Dieu. Tout se comprend pas en un jour et ce n'est pas une raison pour se décourager. Faisons confiance au Seigneur. Il sait le moment adéquat pour nous révéler tel ou tel aspect de sa parole. Petit 4, breuvage spirituel par une vie de prière selon l'esprit. Notre vie de prière n'est pas seulement de petits moments de temps de prière, mais elle est plus que cela. La vie de prière de l'esprit est une manière de vivre la relation permanente de Dieu avec nous en esprit. En fait, la relation que j'ai avec le Seigneur est une relation de cœur, d'esprit à esprit, de façon continue, libre, fluide et permanente dans l'amour. Cette relation d'unité en mouvement relationnel en esprit est comme notre respiration physique. Dans cette image, lorsque j'inspire puis expire, ma cage thoracique monte et descend. Et en cela, il y a un mouvement de Dieu vers moi et moi vers Dieu en esprit. C'est le mouvement relationnel du don de Christ à moi et le retour de mon cœur à lui. C'est cela la vie de prière par l'esprit de manière permanente. Cette vie de prière permanente est aussi ce courant, ce fleuve d'eau vive de l'esprit qui coule et irrigue constamment mon être intérieur. Christ, par l'envoi et le renouvellement de l'action de son esprit en moi, va abreuver mon homme nouveau afin que je n'aie plus jamais soif. La source divine ne tarit jamais car elle fait jaillir l'eau de l'esprit de manière permanente en mon sein pour m'abreuver éternellement. L'eau de la vie éternelle, qui est l'esprit de Christ en mouvement permanent en moi, coule en permanence pour abreuver mon être spirituel pour qu'il grandisse en maturité. Croissance spirituelle par l'esprit. Cette vie de prière par l'esprit est la manière de vivre du Christ comme un courant d'eau intarissable. Je bois quotidiennement de l'eau vive. De même que les anciens Égyptiens étaient bénis avec les débordements du Nil, l'eau vive de Jésus-Christ, sa vérité, sa lumière et son esprit peuvent couler en nous et nous sauver de la sécheresse spirituelle. Nous ne pouvons pas comprendre la source de cette eau vive, mais à chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, nous faisons un festin des paroles du Christ, nous buvons à une source puissante. Alors que nous nous concentrons attentivement sur les messages de l'Évangile et essayons d'appliquer les enseignements du Seigneur dans nos relations avec les autres, une portion de son eau vive coule en nous. Quelle est la quantité d'eau vive recommandée chaque jour? Cela peut-il même être mesuré? Peut-être que la manière la plus sûre de déterminer si notre consommation d'eau est suffisante est la même que notre perception des effets des inondations du Nil sur le désert égyptien. Tout pousse où l'eau coule. Notre amour pour les autres, et particulièrement pour le Sauveur, pousse-t-il? Notre témoignage de sa parole grandit-il constamment? Les fruits de l'esprit mûrissent-ils dans notre vie? Une croissance spirituelle indique la présence d'eau vive en nous. Parfois, nous ne faisons que flirter avec la spiritualité en ne prenant que quelques petites gorgées du puits du Sauveur, mais ce n'est que lorsque nous buvons profondément et régulièrement sur une longue période que nous sentons tous les avantages de ce que Jésus nous offre. Oui, il rendra votre désert semblable à un Éden et votre terre aride à un jardin du Seigneur. Mais un jardin luxuriant ne fleurit pas du jour au lendemain, même s'il est arrosé fréquemment. Boire de l'eau d'autres puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Jean 4, versets 7 à 15. Alors que l'eau du Nil prend sa source dans des terres éloignées, l'eau vive du Christ vient d'une source céleste et ne peut pas être produite par d'autres sources. Depuis les premiers jours de l'existence terrestre des hommes, il y a eu de faux puits pour nous tromper. Dans les temps modernes, le nombre de ces puits a augmenté de façon exponentielle et des millions d'âmes assoiffées sont les victimes d'eau contaminée. Des addictions peuvent se créer alors que nous cherchons à étancher notre soif interne avec tout ce qui pourra faire passer notre ennui, satisfaire nos désirs charnels, désensibiliser notre conscience ou masquer notre souffrance émotionnelle. Malheureusement, la spirale descendante de l'addiction mène au désespoir lorsque nous réalisons à quel point la vie est courte, le danger de boire de l'eau de puits contaminée et que chaque gorgée accroît notre soif au lieu de la satisfaire. En tant qu'enfants de Dieu, nous venons d'un endroit céleste où la lumière spirituelle, était notre habitat naturel. Bien qu'un voile ait été placé sur nos esprits en entrant dans la mortalité, il semble que nous avons en nous une faim profonde de lumière et de vérité. Cependant, nous ne reconnaissons pas toujours cette faim pour ce qu'elle est. Avec nos esprits logés dans des corps et assujettis à l'homme naturel, nous essayons d'assouvir notre faim spirituelle en assouvissant nos désirs physiques. C'est une poursuite vaine. Ce sera même comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Seule l'eau vive de Jésus-Christ peut assouvir notre soif. Tout ce que nous pensions avoir besoin dans d'autres sources, nous le trouvons en lui. Jésus-Christ est la source de lumière liquide qui désaltère et soutient alors qu'elle coule dans nos esprits et nos cœurs. Cette eau vive possède un pouvoir spirituel remarquable, celui du Saint-Esprit, et de même que la flore d'Égypte prospère le long des rives du Nil, nous prospérons spirituellement lorsque nous buvons profondément et quotidiennement l'eau de la source bouillonnante du Seigneur. Nous sommes le désert d'Égypte, desséché et stérile. Jésus est un fleuve d'eau vive qui peut couler en nous, plein de vie et de scintillements de lumière à la surface. Il est un fleuve qui ne s'assèche jamais. Il est l'eau vive en quantité illimitée. Il est une longue et profonde gorgée qui désaltère. Il est un fleuve qui ne sèche jamais. Ainsi en est-il de notre vie de prière par l'esprit pour grandir spirituellement. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question, pourquoi la chair et l'esprit sont-ils opposés dans leur nature? Comment discernez-vous lorsqu'une personne vit par la chair ou par l'esprit? Justifiez votre réponse à l'aide de Matthieu 7. Deuxième question, expliquez ce qu'est la marche par l'esprit. Que veut dire être conduit par l'esprit? Expliquez-vous avec des versets bibliques. Troisième question, les blessures du passé et les démons nous freinent-ils dans notre croissance spirituelle? Si oui, il faut les traiter ensemble ou séparément. Pourquoi? Quatrième question, pour notre croissance spirituelle, nous devons nous nourrir et nous abreuver intérieurement. Comment fait-on? Donner des versets bibliques.